Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour.
À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, l'agneau de Dieu. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
La pensée de restaurer l'Église fondée par Jésus-Christ devrait nous effleurer l'esprit bien plus souvent, car cela mérite de notre part une attention soutenue et un désir d'engagement personnel nettement défini. Mais peut-être ne saviez-vous pas qu'il est possible de retourner aux origines et de retrouver l'Église du premier siècle. Il est évident que nombreux sont ceux qui se posent des questions à propos d'une restauration du christianisme, tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament. Pourquoi ne proclame-t-on plus l'Évangile dans sa pureté, sa simplicité originelle et l'obéissance au simple terme de la volonté divine? Pourquoi n'adore-t-on plus l'Éternel comme il le stipule dans le Nouveau Testament? Et pourquoi ne vit-on plus une existence faite de sobriété, de justice et de sainteté? Tout cela permettrait de remonter le courant de la négation de Dieu et des débordements tant décriés de notre société, mais devant lesquels chacun demeure impuissant. La nécessité de revenir vers le Seigneur est évidente. Il suffit de regarder le triste spectacle qu'offre le monde religieux pour s'en convaincre. La prédication de la croix du Sauveur a fait place à des théories, voire à des affirmations, lui étant tout à fait étrangères. Chacun porte un nom bien distinct, pour que sa secte puisse se différencier des autres, et ses appellations sont étrangères à la Bible. Des pratiques culturelles, aussi diverses que variées, ont cours sans souci pour la volonté de Dieu. C'est à quoi nous nous intéressons. C'est un retour absolument total à ce que Dieu désire que nous fassions, tant en matière d'adoration que de vie journalière. La parole de Dieu est notre règle, notre seule règle de foi et de pratique. Nous parlons lorsque la Bible parle pour rester silencieux quant à ce qu'elle ne dévoile pas. Il faut désigner les choses par leur nom biblique et faire ces choses telles que la Bible les voit. Mais direz-vous, est-il vraiment possible de restaurer l'Église du premier siècle alors que nous vivons au XXe? Notre réponse est oui. L'Église que Jésus avait promis de fonder à la gloire de Dieu ne peut être affectée par le temps. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Contrairement à ce que beaucoup se figurent, il est possible de rétablir l'Église de Dieu dans toute sa pureté primitive. Le chapitre 11 des Actes dit bien que ceux qui avaient été dispersés par les persécutions survenues à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Au verset 26 du même chapitre, il est question des assemblées de l'Église à Antioche. En parlant de Barnabas et de Saul, il y est stipulé qu'ils se réunirent à ces assemblées et qu'ils y enseignèrent. Le problème se pose. Comment se fait-il que l'Église existait à Antioche? Les familiers de la Bible savent que l'Église de Christ avait été fondée à Jérusalem, mais voici qu'apparaissent des assemblées à Antioche, ville située à plus de 500 km de là. Par ailleurs, cette Église se trouve être identique, en communion parfaite avec celle de Jérusalem. Le verset 26 précise même que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. L'Église s'était établie à Antioche par la simple prédication de l'Évangile. Elle avait provoqué l'obéissance à la vérité de ceux qui avaient même formé plusieurs assemblées. Mais oui, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Supposons un court instant que le continent australien ait déjà été découvert à l'époque qui nous occupe. Et imaginons encore que les mêmes personnes qui avaient enseigné la parole de Dieu à Antioche, en Syrie, l'aient également prêché là-bas, à des gens tout aussi sincères et réceptifs. Pensez-vous que la même Église, à Antioche et à Jérusalem, se serait implantée en Australie, c'est-à-dire identique au point de vue doctrine et communion fraternelle? Cela fait pas normal la supposition, je vous l'accorde, mais soyons maintenant tout à fait réalistes. Environ 19 siècles nous séparent de l'Église du 1er siècle fondée à Jérusalem, ainsi que plusieurs milliers de kilomètres. Cependant, ces années et cette distance ne signifient rien. Lorsque la même volonté de Dieu est prêchée ici, et que des hommes et des femmes y obéissent, le résultat est exactement le même. L'organisation de l'Église décrite dans le Nouveau Testament se caractérisait par une extrême simplicité. Les sauvés se réunissaient en assemblée pour travailler ou adorer. Cette assemblée était en réalité la seule organisation synthétisant les efforts de tous les chrétiens. Aucun groupement religieux de quelque sorte que ce soit n'existait ou n'était plus grand que l'assemblée. L'ensemble des assemblées formant le corps tout entier des sauvés, l'Église que Jésus avait fondée. Les synodes et autres conciles brillèrent remarquablement par leur absence. Le Nouveau Testament est là pour nous le prouver. L'assemblée constituée était spirituellement supervisée par des anciens ou évêques et des diacres. Le prologue de l'Épître aux Philippiens le révèle en ces termes. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres. Observons ce pluriel des termes évêques et diacres que l'on retrouve invariablement dans toutes les Écritures. Jamais pourtant nous n'y pourrons lire le mot diocèse, paroisse ou autre. Pas plus d'ailleurs que l'exemple d'un évêque ou d'un ancien exerçant un contrôle quelconque sur plusieurs assemblées. Dans l'Église primitive, chaque assemblée jouissait d'une totale indépendance, autrement dit, elle était absolument autonome et se dirigeait elle-même. Les anciens n'avaient d'autorité que dans l'assemblée qui les avait choisis, nommés elles-mêmes. Pierre, dans sa première épître, écrit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Notons quand Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, puis il ajoute, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Un examen comparatif de ce langage avec les pratiques religieuses courantes du monde qui nous entoure démontre que les hommes se sont éloignés des instructions divines. Après les temps apostoliques, certains étaient rusés et s'arrogèrent le droit d'exercer leur autorité au-delà d'une simple assemblée locale de chrétiens. Cette dernière ne possédait aucun quartier général terrestre pour recevoir décrets, décisions ou ordres quelconques. Leur centre se situait au ciel, où Christ, la tête de l'Église, était assis à la droite de Dieu. Aucune organisation ecclésiastique de quelque nature que ce soit ne reliait entre elles les églises ou assemblées. Le monde religieux actuel est dirigé par des gouvernements de forme ou de nature cléricale. Le seul chef, la seule tête du corps que constitue l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ, est ignoré à partir du moment où un clergé assume le droit de se diriger lui-même et de diriger les autres. Il admet que Christ détient l'autorité, mais son cœur en est loin et penche sans cesse vers une forme du gouvernement qu'il désigne ou élit. Il n'est donc pas étonnant de lire ou d'entendre parler des décisions prises par tel ou tel synode, concile ou assemblée générale. Des délégués et des délégations d'hommes légifèrent afin de mieux gouverner les divers ecclésiastiques de tout rang. Pour reconnaître l'Église du Seigneur, il faut regarder par-delà ces organisations humaines destinées à diriger des églises également établies par l'homme sur des bases autres que celles décidées par le Créateur. Alors on découvre des assemblées locales dont Dieu est le seul conducteur et qui, selon le Nouveau Testament, sont autonomes, dirigées par une pluralité d'évêques et dont le Dieu de la Bible est le seul législateur. Cette Église, dont je voudrais d'ailleurs vous parler davantage, existe réellement. Cela prouve qu'il y a moyen de restaurer le christianisme primitif dans notre XXe siècle. Des assemblées se réunissent en France, à Lille, à Reims, Paris, Lyon, Dijon, Grenoble, en Belgique, à Verviers, Liège, Bruxelles, Namur, Charleroi, Mons en Suisse, à Genève et Lausanne, et dans plus de 120 autres pays du monde. À quoi servirait-il de vouloir réformer une église ou une secte donnée? Ce qu'il faut, c'est restaurer ce que Jésus a fondé, l'église qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce programme de radio est organisé afin d'aider tous ceux qui cherchent la vérité en matière spirituelle puissent la trouver. Il existe malheureusement tant de diversité de doctrines et de divisions qu'on se demande honnêtement où se diriger. Une église dit « voilà comment il faut croire et ce qu'il faut faire ». Une autre affirme « tout cela ne constitue rien de valable, venez plutôt chez nous ». Pour ajouter encore à la difficulté, nombre de mouvements proclament « quelle importance pourvu que vous soyez sincères ». Toutes les routes mènent au même endroit. Nous devons réagir et considérer qu'il n'existe qu'une vérité, qu'une Église conforme à la volonté de Dieu. Nous voulons vous aider à trouver, à acquérir ce que le Seigneur veut que vous obteniez, la paix du cœur et de l'esprit, par le salut de l'âme. Jésus n'a jamais rien vendu, et nous non plus. Il n'était pas un commerçant, nous non plus. Il ne cherchait pas son propre intérêt, nous non plus. S'il nous fallait exprimer une sorte de devise, nous dirions ceci. Pas de livre sauf la Bible. Pas de credo sauf Jésus-Christ. Pas de nom sauf celui de Dieu. Pas d'appel sauf les gens de l'Évangile. Pas de base, d'accord, sauf celle des Écritures. En essence, l'unité. En opinion, la liberté. En toute chose, l'amour. Venez, marchez avec nous, main dans la main, avec les premiers chrétiens.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuit de temps en temps, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Le Seigneur m'aime, on ne se plaigne, le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130, Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130, Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde, et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime.